début de chaque après-midi ou de la journée, récapituler une pratique d'Amitabha. Récapituler pour recontacter le sens de ce qu'est Amitabha et le sens de ce qu'est Dewache. L'aspiration à un objectif, souhaiter renaître en Dewachen, c'est l'aspiration, souhaiter aller vers, etc. C'est une force qu'il doit y avoir, une force habitée de certitude, on peut appeler la foi, mais cette foi, il ne faut pas qu'elle soit pleine de croyances, de croyances au sens d'illusion, des attentes, etc. C'est pour ça qu'on pratique. Parce qu'on aura beau avoir une aspiration, c'est l'objet de notre aspiration qui va influer sur le fruit de cette aspiration. D'accord ? Surtout au moment de la mort. Si on n'est pas conscient de nos délires sur Amitabha, Dewachen, ou Paradis, ou Jésus-Christ, etc., parce que ça peut être délirant, aussi délirant que le Père Noël, des choses comme ça. D'accord ? Et bien, que tu sois sincère dans ton aspiration, il y a un lien de cause à effet. D'accord ? La cause, ce ne sera pas tant l'aspiration en tant que telle, honnête, sincère, bien dans tes baskets, ouais, j'aspire à l'éveil, j'aspire à Amitabha. Non, la cause, c'est le contenu de ton objectif, de ce que tu entends par Amitabha dans ton subconscient. Donc on aura beau dire je fais POA, je fais le transfert de conscience, il n'y a pas un Dewachen qui nous attend, tu vois. Ce ne sera pas infaillible comme ça. Ah ben je vais en Dewachen, d'accord. Dewachen et Amitabha, c'est aussi des conceptions, d'accord. Ça va. Ces conceptions, elles ont une exactitude. Quand on arrive à une exactitude de la conception qu'est Dewachen, il n'y a pas de problème. Tu vas réaliser des watch-end. D'accord ? Donc, le but de la méditation, c'est ça. C'est que, par l'effort de la méditation, on se retrouve comme un maçon devant le mur. D'accord ? Et c'est là qu'ils vont se dire, je ne suis pas aussi bon maçon que je pensais. D'accord ? J'ai un CAP de maçon, mais finalement, face à... Voilà. Et bien, devant la méditation, devant une sadhana, etc., et bien, c'est pas aussi simple que ça, de dire, oui, je vends des watch-end, un Amitabha, etc., parce qu'on verra qu'on n'a pas de concentration, voilà, etc. D'accord ? Donc, par la force de la concentration, on va commencer à avoir une limpidité sur nous-mêmes. D'accord ? Et voir nos petits délires, nos petits caprices, nos fantasmes spirituels, etc. Et c'est ça qu'il faut dégager. Toujours reprendre un peu contact avec la pratique d'Amitabha. Et même par la réflexion, se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'Amitabha ? Il ne faut pas avoir peur de douter. Si on a peur de doute, on va se renfermer dans la croyance. La croyance bête. Et puis on va se punir en disant, oh, je doute, je ne suis pas un bon croyant. Non. La conscience nous invite. Si on est sincère, on doute. Et le doute est un élément d'éveil. Le doute au sens, je ne suis pas sûr de ce que j'ai bien compris, etc. L'interrogation, ou pas la suspicion. Donc, il ne faut pas avoir peur de douter. Douter, c'est la conscience qui nous invite à réfléchir, qu'elle voit qu'il y a des zones d'ombre subconscient. Et tant que ça arrivera, ça va nous empêcher de décoller, si j'ose dire, en Dewachen. Il y aura toujours un effet à notre aspiration, mais on va se retrouver dans un cul-de-sac si on n'a fait que fantasmer, et là c'est la catastrophe. Soit on joue encore sur la croyance de ce cul-de-sac, on magnifie, etc., etc. Et là on est dans un grand délire d'imagination, on est perdu dans une sorte de pseudo paradis artificiel, quoi. D'accord ? Tu comprends ce que je veux dire ? On sait pas tout clé en main, il y a un monsieur Amitabha qui nous attend, il suffit d'aspirer, etc. S'il y a réellement un Bouddha, mais qui a ce pouvoir d'être dans un paradis, de dire aux gens, vous aspirez à moi, puis vous venez, eh ben, il n'y aurait pas besoin de méditer, de faire des accumulations de trucs. Il dit, non mais pratiquez pas, il n'y a pas de besoin, d'accord ? Sinon, ça serait des gens, il faudrait les mériter, quoi, tu vois ? Ce serait des capricieux, tu vois, comme... Ah, je me fais désirer. Oui, mais tu sais, il faut mériter. Hein. Ça va pas. Hein. C'est pas correct. Ça, c'est pas dans, dans l'esprit d'un être éveillé, ça, de se faire prier. Hein. Amitabha, c'est une qualité inhérente de notre esprit. Et Dewachen, c'est la sphère d'expérience quand on a obtenu cette qualité inhérente de notre esprit. Donc Dewachen, ça peut être maintenant. La réalisation d'Amitabha, ça peut être maintenant. En attendant... On joue sur tous les tableaux. On fait Amitabha pour cette vie-là. On se prépare avec Poa pour, éventuellement, si je ne suis pas éveillé au moment de ma mort, ben, j'ai toujours Poa. Oui, je peux sortir mon joker, et ainsi de suite. Poa, ça veut dire déménager, délocaliser. Délocaliser nos préoccupations. Il va falloir tout abandonner. D'accord ? Si on gémit sur... Ma femme, mon enfant, bon, c'est triste, d'accord. D'abord, ça ne les aiderait pas. La moindre des choses, c'est dire, écoutez, soyez tranquille, pour moi, ça va aller, donc continuez votre vie. On est triste, bien sûr, hein, voilà. Mais voilà, c'est la réalité de la vie, hein, peut-être. Mais la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de s'aider soi-même. Montrer qu'il y a une capacité à s'aider soi-même, à se libérer soi-même. Donc cette aspiration qui est nécessaire pour le poids, qui est nécessaire pour au moment de la mort, l'aspiration elle-même est un poids. Dire, voilà, t'es là, t'as le train qui va rentrer dans le mur, qu'est-ce que tu fais ? T'aspires, tu t'élances pour sauter du train. Il faut un courage hein, pour s'élancer. Même si tu sais que le train va s'écraser contre le mur, ça fait peur, hein, tu vois ? Cette idée-là de force. Qu'on appelle l'aspiration, et je dis souvent, l'aspiration est un mot trop faible encore. C'est une force. C'est la force du désir. Le désir est vital. Aspiration, c'est une sublimation du désir, hein, dans notre langage. C'est bien. Mais des fois, pour beaucoup de gens, aspirer, c'est une velléité. C'est, j'aimerais bien, on se voit, ah, j'aimerais bien faire un petit repas chez toi, qu'on s'invite sur un apéro. Puis un mois se passe, deux mois, on se revoit. Ah, il faudrait qu'on se refasse un petit aspiro. Apéro, ben il aspire. Hein. Il a une aspiration, il énonce. Tu vois ça, il y a, c'est mort derrière. C'est gentil, c'est une politesse. Ben, avec Dewachen, tu ne peux pas dire ça. Bon, d'abord, tiens, ce serait bien que j'aille en Dewachen. Et alors, il y a quelqu'un, ah, je t'ai entendu, je suis monsieur Amitabha, j'ai entendu ton souhait, je te réalise, ça ne va pas marcher comme ça. Donc l'aspiration, il faut trouver cette force, c'est une force inhérente qu'on appelle le désir. Le désir, c'est une intelligence, c'est pas une émotion. Au sens tantrique du terme, vajrayana et même bouddhique du terme. Le désir, c'est un mode de perception et un mode de regard sur toi face à ce qui t'est proposé. C'est l'appétence de la vie, l'élan. Maintenant, il ne suffit pas de te jeter... D'accord ? Oh, mais je me jette, voilà, etc. Ah, oh, j'ai oublié le parachute, quoi. Le désir est inhérent. On dit qu'on aspire tous au bonheur, c'est le désir. On désire tous le bonheur, mais c'est inhérent à la nature de la conscience. Il n'y a pas besoin de chercher d'être heureux. Ma conscience est habitée du désir de bonheur. C'est la conscience. Et nous, on va tout faire pour être lucide, pour comprendre les différentes conceptions qu'on peut avoir du bonheur, pour évacuer les conceptions de bonheur qui ne sont pas prioritaires, ou même ne sont pas du tout vertueux, même des pièges. Le désir, c'est l'élan, il faut trouver cette force. On le retrouve aussi dans la nature. toute vie, tout l'univers, la matière, la conscience, habitée de désir, de cette force. Le mot désir, il ne faut pas s'y arrêter, mais il n'y a pas d'autre. Élan, force, une force en tant que force. Tu peux avoir toute une ville bétonnée, ça tombe en ruine, la nature prendra le dessus. Ben, le végétal a cette force. Tu n'empêcheras pas les choses de pousser, d'aller chercher un mécanisme de photosynthèse, d'aller à la lumière pour se nourrir de photosynthèse, tu vois, et ainsi de suite. C'est la force de la luminosité. Même la vitamine D dans le végétal. Notre corps a aussi une des vestiges du règne animal, la photosynthèse, la vitamine D. D'accord. On peut l'avoir maintenant en médoc, d'accord. Mais le corps fait une photosynthèse comme un végétal. Ben, on peut imaginer cette capacité de photosynthèse de la lumière dans la conscience. La conscience, quand on dit « elle aspire au bonheur », c'est-à-dire un système de photosynthèse de luminosité. Elle va toujours à sa luminosité. On pourra avoir des pathos, d'obscurité mentale, des dénis, etc. On peut avoir des mauvais karmas négatifs qui nous plongent dans l'obscurité mentale. La force de la conscience, c'est d'aller toujours vers cette luminosité d'elle-même. C'est pour ça que j'appelle ça la miséricorde même. Même les enfers vont être impermanents. La conscience d'un être dans les enfers cherchera toujours à trouver une lumière au bout d'un tunnel. Même si l'être ne l'expérimente pas, cette lumière, c'est le désespoir total. Il n'y a même pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'échéance temporelle, parce qu'il n'y a même pas l'idée d'un bout d'un tunnel. D'accord ? Il n'y a pas. Alors que nous, on a l'idée de mortalité. Dans les enfers, ils n'ont même pas l'idée de mortalité. C'est ça qui torture. Mais la conscience, elle est programmée. Elle trouvera une faille, comme une herbe dans le béton. Quand Amitabha fait la promesse, il ne s'engage pas, non. C'est l'obéissance à la nature de l'esprit. On reste naturel, et bien, en restant naturel, on ne désobéit pas à notre propre nature. C'est ça le secret du Sahaja. Reste naturel, la conscience revient au galop. Sa force de puiser sa photosynthèse de sa propre de se nourrir de sa propre luminosité viendra. Tu peux avoir quelqu'un qui est déprimé dans sa banquette à un moment comme ça, et puis comme ça il est chargé de karma négatif, de lourdeur, de dépression, machin, et puis on ne sait pas pourquoi à un moment il a un regard sur lui, quoi. Puis bon, oh ben ça y est, la conscience l'a poussé, tu vois, ce oh. Ben, il a fait un poids, il s'est délocalisé de son apitoiement. D'accord ? Donc, bien écouter cette force, c'est le désir. Dans le Vinaya Mahayana, dans le code éthique du Mahayana, le désir n'est ni vertueux, ni non vertueux. C'est une force, il faut en faire un bon usage. Certains en font un mauvais usage. Le désir va servir de mode de compensation, d'espérer, de trouver du sens dans l'objet de désir. Un espoir dans un objet de désir. Ils ont créé un objet de désir. Et il n'y a pas de réalité d'un objet de désir. Et ainsi de suite. Donc le désir va être restreint. Et effectivement, la conscience va nous amener à un dukkha. Parce que c'est sa manière de nous alerter qu'on se plante, qu'on s'illusionne et qu'on fait un mauvais usage du désir. Donc le mauvais usage du désir va nous amener à la déception des objets de désir, et puis on va en chercher un autre. Jusqu'à un moment, on va avoir juste un sentiment de vanité, qu'on ne trouve plus de sens pour justifier nos désirs. Et ça, c'est le sentiment de vanité. Ben, la vanité, c'est la petite sœur de la vacuité. Justifier du désir en mettant des sens dans les objets, ça ne va pas. Le sens est autre part. Le sens est dans l'usage même du désir. Dans la nature même du désir. Et la nature même de cette force désir, c'est Amitabha. Luminosité infinie. C'est-à-dire lucidité en toutes circonstances. en tout phénomène. Il n'y a pas un phénomène qui échappe à cette lucidité. Cette lucidité, c'est la sagesse du discernement. Ce désir est discernement. Il a sa propre intelligence discernante. Si on reste avec l'écoute naturelle, c'est une sorte de discernement instinctif du désir, un réflexe d'auto-luminosité. C'est pour ça que ce désir est une intelligence qu'on appelle le discernement. C'est la qualité inhérente de l'esprit, une qualité, je préfère dire une aptitude de la conscience, yonten, je préfère dire aptitude de la conscience, comme pour les autres émotions. La répulsion-aversion, l'intelligence, c'est la clarté. Amitabha, c'est le discernement. Et ce discernement, quand il est en usage, un bon usage du désir, on est dans le discernement. On n'est pas dans l'aveuglement, dans les systèmes de compensation, on n'est pas dans le système de satisfaction immédiate. Ah bah oui, on use du désir, mais c'est, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition spirituelle. C'est au jour le jour, quoi. Bon, mon petit désir, allez, comme on a une petite érection du matin, voilà. Allez, petit désir, hop, compensation. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais si on fait que ça, c'est gâché à une force, quoi. On y a le droit à cette compensation. Enfin, moi, je ne me refuse pas, mais il y a d'autres ambitions aussi. Mais si on reste planté dans quelque chose de mesquin, il faut de l'ambition, quoi, dans la spiritualité, de la prétention. Ben, si on reste dans ces petites mesquineries, eh ben, on tue la force. Alors que la force, si on peut l'obtenir, la force du désir, elle ne tue pas les petites compensations. On aura le beurre et l'argent du beurre, si j'ose dire. C'est ça le vrai sens de ce désir, c'est le discernement. C'est que dans le discernement, tout est bon après. Et c'est cela qui fait que cette sagesse du discernement, c'est le désir même, en tant que force dans son bon usage. Et on affirme que c'est félicité. Il ne faut pas faire l'inverse, mélanger les choses. Le désir est félicité. Des fois même, j'ai pu le dire, des fois très rapidement. Non. Le désir a une sagesse inhérente, le discernement. Et quand ce discernement est mis en œuvre, dans toute son intelligence, etc., il y a un symptôme qu'on appelle félicité. Sukha. Quand l'intelligence n'est pas mise en œuvre, ça veut dire qu'il y a de l'illusion. C'est de l'intelligence, mais mélangée avec de l'illusion, on peut polluer d'illusions, de schémas, de conditionnements, d'attentes, de fantasmes, etc. Eh bien, il n'y aura pas Sukha. Il n'y aura pas le symptôme Sukha. Il y aura Dukha. Contrariété existentielle. Ça, c'est le sens d'Amitabha. Et par cette intelligence, le monde extérieur devient Dewachen, c'est-à-dire doté de félicité. C'est-à-dire que les phénomènes ne sont plus souillés de nos imputations, les apparences ou phénomènes. Les apparences et les phénomènes qui nous viennent à l'esprit ne sont plus souillés par nos stratégies de déprimés qui cherchent à donner du sens à nos désirs, et même du sens à nos mesquineries, ou de justifier tout le temps, prétexter, voilà. Et quand les phénomènes sont plus souillés par nos illusions, mais sont plus dukkha. Les phénomènes, quand ils sont souillés de nos illusions, eh bien, il y a dukkha. Et dukkha nous sert de diagnostic pour savoir si on est dans l'illusion. Et si on a sukha, eh bien, ça nous sert de diagnostic pour savoir qu'on n'a plus d'illusion. Eh bien, les phénomènes, quand on ne les impute pas, en quelque sorte, qu'on peut dire, quand on les respecte pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire dharmata, pur phénomène, sans réalité propre, l'union de clarté et vacuité, etc., ils s'offrent à nous dans leur loisibilité. Ils nous sont loisibles. Ils nous sont loisibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune intention, ils se prêtent à notre portée de notre intelligence, du discernement. Ils ne sont pas particulièrement agréables, ils ne sont pas particulièrement désagréables, ils sont prêts à être usés par notre intelligence. C'est ça, Dewachen, doté de félicité. L'environnement est doté de félicité en disponibilité. Et nous, par l'intelligence du discernement, on en jouit. Pour le poa, il faut cette aspiration. Aspirer à obtenir ce discernement pour prétendre reconnaître des Dewachen. Tehuachen, c'est la même chose que l'Éden dans notre tradition biblique. Dieu, la nature de la clarté et luminosité, on peut dire, hein, si on ne veut pas être théiste, dit eux. Hein, dans Dieu, il y a vitamine D, d'accord? Cette autophotosynthèse de notre conscience qui est tout le temps en projet d'élévation, cette force, d'accord? Dieu, lui, jouit des fruits de l'arbre de la vie. Dans des Wachen, c'est pareil. D'accord? Jouir, ça veut dire jouir. Jouir, ça veut dire quoi? Faire usage. Et si tu dis à un enfant, fais usage de ça et tu ne lui as pas donné de l'intelligence, tiens, jouis du feu. D'accord? L'autre, il va se brûler, le gamin. Mais c'est un peu ça. L'idée, c'est qu'on a une disponibilité d'une sphère d'expérience. Ça peut être ce monde tangible, ça peut être le monde intangible du monde du rêve. Mais on a des sphères d'expérience constamment. On a une sphère d'expérience post-mortem. On aura toujours des sphères d'expérience. Et on n'a pas le logiciel, enfin, on n'a pas le mode d'emploi, la notice de l'intelligence, mais la nature, elle est comme ça, voilà. Et on se plante, dukkha. Bah, Adam et Ève, ils n'ont pas le mode d'emploi. Donc ils vont dire, oui, mais suis-je sûr de jouir de quelque chose de bon? Et donc il va demander au phénomène, en l'occurrence la pomme, ou la figue, selon certaines interprétations de la Bible, d'aller voir le phénomène, lui demander, dis-moi si tu es bon ou mauvais, agréable ou désagréable. Et bien, il crée un mauvais usage du désir, c'est-à-dire il propose à un objet de désir de justifier son désir. Et bien, c'est plus cette force de discernement. Tu délègues au phénomène, à l'autre, au monde, etc., de prémâcher ton discernement, en quelque sorte. Et là, c'est une désobéissance à la nature même du désir, à la nature même de notre conscience. Le discernement est à portée d'esprit constamment. Et le discernement est une intelligence qui n'a pas le souci de conclure « Ah, c'est bon, c'est pas bon ». Le discernement est une force d'intelligence qui est toujours en rebond. Une erreur, on rebondit. Discernement, et ainsi de suite. Et nous, on voudrait en absolu bon. Dis-moi ce qui est bon et dis-moi ce qui est mauvais. C'est ça le péché originel. C'est la discrimination. On va incriminer ces phénomènes comme étant agréables et ces phénomènes comme étant désagréables. Et puis on va se dire même, une fois que je serai éveillé, eh ben j'aurai que des phénomènes agréables. Mais non, c'est pas ça. Ça se passe pas comme ça. Donc on délègue au phénomène de s'annoncer comme étant ceci ou cela. Les phénomènes n'ont pas d'existence de ce type. Donc dans Poa, c'est l'extrême aspiration dans un moment critique, le moment où la conscience est prête à se séparer du corps biologique. Donc c'est un moment, je saute du train, ou pas, voilà, je saute du train, mais comment sauter du train, voilà, avec un certain discernement, voilà, etc. Et surtout, une connaissance claire de l'objectif et une connaissance claire de l'intelligence qu'il faut y mettre. Si on percute bien cette intelligence claire, désir discernement coémergent, désir sagesse coémergente, eh ben, on obtient le Mahamudra. Le poids ultime, c'est Mahamudra. Maintenant, si c'est pas possible, ben, on a d'autres moyens. Des fois, on divise les poids selon trois catégories. Les poids du Dharmakaya. On donne l'idée d'un poa, mais finalement, c'est pour arriver à une voie ultime, Mahamudra ou Dzogchen, voilà, etc. Ensuite, il y a le poa du Sambhogakaya et les poas du Nirmanakaya. En guise d'introduction, je vais proposer le poa de Nirmanakaya. Ça n'empêche pas qu'il faut avoir l'ambition d'une intelligence, bien comprendre, etc. Faire le même usage de cette force physique.